interprète de Fantasma. J'ai le plaisir de recevoir au studio Emma Alcala. Bonjour Emma.
Bonjour Raphaël.
Alors on écoutait en introduction de cet entretien le premier morceau de ce qui est votre premier album, c'est
ouais.
ça
Ouais ouais, premier album, on avait déjà sorti des trucs mais des EP avec moins de titres. Et là c'est vraiment l'album entier quoi, toute l'histoire.
Toute l'histoire, on va parler de cette histoire justement. Alors déjà, Emma Alcala, vous êtes un groupe, on peut dire ça, un groupe,
ouais.
une formation qui vient du Zerche.
Oui, totalement, c'est un trio qui est basé autour du Zerche, on n'habite pas vraiment au Zerche. C'est un trio, c'est Axel Moreau à la batterie, Thomas Oran à la basse et au synthé basse, et moi-même à guitare et chant. Plus toutes les prods que je fabrique en amont, quoi. De synthé, de violon, de plein de petits instruments, parce que j'ai une espèce d'atelier de musique chez moi où j'ai plein de petites choses à enregistrer.
Oui, on sent qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs hein, sur cet album, beaucoup de sons, beaucoup d'univers, on sent que tu t'es...
Ouais, totalement.
T'as exploré beaucoup de choses, quoi.
Ouais, j'aime bien.
Ouais, ça s'entend. Alors on va parler un peu déjà du groupe, vous existez depuis maintenant 4 ans.
Ouais, à peu près, ouais.
À peu près.
À peu près, ça a été tout un processus pour le monter, puisque à la base, j'avais monté ça plutôt pour faire de la musique en studio. Donc j'avais cherché une équipe de musiciens sur Toulouse. On avait monté un premier EP, qui est disponible, mais sur SoundCloud. Puis je me suis dit, non mais en fait, il faut que ça soit du live, il faut que ça soit un concert live. Et j'ai trouvé justement Thomas Oran et Axel Moreau pour jouer... ces morceaux live. Du coup, c'est à partir de 2020-2021 qu'on a monté ce trio, cette formation-là, et qui est la même aujourd'hui, et qui est vachement chouette.
On n'en doute pas. Et du coup, alors, donc tu as dit deux EP de sortie depuis 2020, et là, l'album, donc, qui regroupe d'ailleurs, je crois, un des EP, il y a quelques morceaux qui étaient sur EP.
Oui, il y a quelques morceaux qu'on a repris. Ils sont réarrangés différemment, parce qu'on aime bien faire ça aussi, les transformer. Pour les adapter et là pour les coller aussi à l'album pour aller dans le sens de l'histoire.
Alors justement cette histoire on va en parler parce que donc je t'ai présenté comme Emma Alcala. Alors ouais. Emma Alcala c'est comme ça que tu te présentes et c'est comme ça qu'on va te nommer pendant l'entretien.
Ouais.
Mais c'est pas exactement ton vrai nom, peu importe ton vrai nom. En tout cas c'est voilà, il y a la question du personnage. C'est un personnage un peu que tu t'es donné dans le cadre de cette formation. C'est ça, on peut dire ça comme ça?
Ouais, totalement. Ouais, c'est un personnage qui est dans une sorte de recherche. Il est dans la recherche pour aller bien en fait. C'est une sorte de thérapie un peu cet album, mais un peu violente. Et l'idée, c'est dans toute cette histoire d'album, mais c'est aussi l'histoire du concert, hein, c'est qu'on part du déni de se rendre compte des choses soi-même.
Peut-être qu'on peut repartir du début, la création donc de ce personnage que tu incarnes, que t'habites, et à partir duquel tu composes jusqu'ici les musiques pour le groupe. Donc ça vient, je crois, d'une rencontre, une rencontre que t'as faite dans le réel, pour le coup.
Ouais, totalement. Ça s'est passé il y a 5 ans maintenant, 6 ans. Un hiver, justement, dans mon village, pas loin du Zerche, en pleine nuit où il y avait... il y a personne, hein, l'hiver, dans mon village. Donc je suis un peu le seul habitant dans le centre-bourg. Et en pleine nuit, il y a un gars qui est sorti, qui sortait de prison. En fait, je lui ai parlé un peu, il m'a expliqué tout ça. Et en gros, il me disait qu'il avait des amis dans sa tête et qu'il lui avait dit de venir jusqu'à devant chez moi. J'étais pas très rassuré. Et au final, en pleine nuit, il a complètement démoli les toilettes publiques et il hurlait à ses voix intérieures d'arrêter de lui parler, d'arrêter de lui dire de faire des mauvaises choses. C'était un peu violent, même traumatisant en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit... Enfin, ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, il faut que je le mette en musique. Moi, je suis musicien, donc c'est comme ça que je parle. Donc je le mets en musique. Et cette histoire-là, notamment, c'est le morceau The World Doesn't Want You dans l'album, qui est un peu c'est le morceau final, hein. C'est vraiment la descente dans la folie. C'est complètement ça.
Ouais, donc c'est cet univers quand même assez particulier, assez violent, assez sombre que t'explores depuis dans ce projet Emma Alcala. C'est pas rien de se raccrocher à une histoire comme ça pour développer un univers. T'as pas choisi n'importe quel univers. C'est peut-être quelque chose d'un peu envahissant, non?
Ouais. Bon, après moi j'aime bien justement. C'est très libre comme univers, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est aussi parce qu'il y a plein de sous-histoires. Ça peut vraiment être... Enfin, j'aime bien le faire rêver, ce personnage, où il va dans le déni, il va dans le fantasme, il est vraiment là-dedans. Et du coup, qui est des fois, justement, ce rapport à la cruauté du réel, moi, j'aime bien ça. Et puis, ça me fait penser à moi, comment je vis aussi. Bon, moi, c'est moins exagéré comment je vis, hein. Mais non, c'est pas envahissant du tout, au contraire, c'est enrichissant.
Donc c'est quelque chose qui t'a donné un peu peut-être ouvert des possibilités que t'aurais pas si tu chantais avec ton nom propre, par exemple, sans personnage. C'est quelque chose que tu te permets des choses peut-être que tu ne te permettrais pas forcément si t'étais quelqu'un d'autre.
Ça, je sais pas, je pense pas. Mais après, j'ai un prénom et un nom tellement commun que il me fallait un nom de personnage, de toute manière. Ouais, c'est Emmanuel Roux, et dans le village à côté de chez moi, il y a un Emmanuel Roux qui est musicien. C'est vraiment compliqué de...
D'accord, il y avait un aspect pratique aussi.
Ouais, aussi, pas mal quand même.
D'ailleurs, bon, on peut peut-être dire deux mots, mais dans l'histoire de la musique, c'était évidemment pas le premier à choisir un personnage pour chanter. Je sais pas, on peut penser à Ziggy Stardust, ou enfin, il y en a eu plein, quoi.
Ouais, ouais, bien sûr.
C'est quelque chose qui amène la musique aussi du côté du narratif, et qui permet d'explorer des univers. Alors, on va parler un peu de cet univers-là que tu explores. On a parlé alors du caractère sombre, un peu la folie, toutes ces des émotions qui peuvent être parfois même violente, mais il n'y a pas que ça. Je trouve dans cet album, justement, il part assez sombre, et on explore des univers vachement variés, en fait, avec des fois même des choses assez lumineuses. Et,
ouais, parce qu'il y a plein d'espoir. Mais étant donné que c'est une continuité, il y a vraiment des moments où on pense que ça va bien se passer. Ça peut bien se finir. Bon, au final, ça va pas bien se finir, mais on se balade, on navigue.
Alors cet album, c'est pas tout à fait un album autoproduit.
Non, pas totalement. Ouais.
C'est-à-dire que il est signé sur un label Limousin.
Ouais, c'est ça. F2M Planète, qui nous ont repéré aux Inouïs l'an dernier. C'est le label de Seven Weeks, un groupe de rock qui tourne nationalement. Et c'est très chouette parce qu'ils nous ont, en fait, ils nous ont produit la distribution physique et numérique. Et merci. Grâce à eux, on peut sortir un disque et aller plus loin. Et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont prêts à investir dans le projet. Ça les touche. Donc ça nous touche.
Et d'ailleurs, produire un disque aujourd'hui, un disque physique, est-ce que c'est quelque chose qui est évident, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on propose par exemple, quand on travaille avec un label, est-ce qu'ils d'emblée disent on va sortir un disque, ou on peut dire non, on va sortir directement sur plateforme, on va pas investir dans la fabrication d'un objet? On en est où de ça?
Ah non, en fait, on est encore dans le monde où il faut fabriquer des objets, parce que c'est aussi c'est le merchandising, c'est comme ça qu'on peut... avoir un peu de finance pour le groupe, en fait, et pour qu'il paye. C'est souvent les défraiements ou les choses comme ça, et du coup ça permet d'avoir un système économique qui peut tenir, et aussi de faire un objet pour des fans, en fait, qui veulent un objet. C'est beau, un objet, c'est chouette. Bon, là c'est un CD, et bon, effectivement le CD il est un peu mort aujourd'hui parce que puis personne n'a de lecteur CD. Mais on aimerait sortir en vinyle ou même en cassette. Moi, j'ai encore un lecteur cassette dans ma voiture, du coup, j'aimerais bien.
Allez, c'est parti pour prochaine sortie. Ça sera la cassette.
Ouais.
Tu reviendras en parler.
Carrément.
Alors peut-être qu'on va peut-être écouter un deuxième morceau pour se donner un peu une idée de cette diversité d'univers. Alors, on va rester dans le sombre. Moi, je propose qu'on écoute peut-être une des plus sombres du disque, je trouve, ouais. qui s'appelle Waiting in a Cave.
Ok.
Ouais, on écoute ça, puis on en parle.
Waiting for you, soul.
Yeah, moi je trouve que alors y a, le titre évidemment m'a mis sur la voie de quelque chose d'assez Lovecraftien. Enfin, j'ai, voilà, y a quelque chose.
Ah, oui.
On attaque la bête qui attend dans la cave, waiting in a cave, avec cette voix un peu sépulcrale, assez angoissante, mais avec une musique aussi très très relevée derrière. On est presque aussi dans, je sais pas, dans des univers à la Carpenter.
Ouais.
Très cinématographique, quoi. Et on est vraiment dans du narratif, pour moi, dans cette chanson. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, totalement. Et même cette chanson, c'est pas Emma Alcala qui chante, d'une certaine manière. C'est un de ses personnages intérieurs, justement, parce qu'il a plusieurs voix dans sa tête. Et là, c'est un peu le personnage qui l'appelle et qui l'amène un peu vers la descente aux enfers, dans le deep mind. C'est vraiment ça, ce morceau. Donc oui, c'est très, très narratif.
Et alors, ça t'a amené loin, quoi.
Ouais, mais moi, j'aime bien quand ça va loin.
Alors, bon, on est dans la cave, là, avec la voix. On va pas y rester tout l'album.
Non,
on arrive des fois, on remonte un peu les escaliers.
Bah, notamment avec le morceau d'après, What's Your Feeling in the Night, qui est un morceau, là pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a fait venir des invités en musique, des musiciens, 8 musiciens qui sont venus. Alors je pouvais pas organiser un studio où on était 13 avec les preneurs de son et ainsi de suite. Du coup, je suis parti, c'est beaucoup des Parisiens, ces musiciens-là. Du coup, je suis parti à Paris avec mes deux micros et mon enregistreur. Et on enregistrait dans les salons parisiens. Donc, c'est marrant parce qu'en vrai, on l'entend pas là parce qu'on a nettoyé tout ça au mixage. Mais on entend les bruits du périph, les bruits de la route. Très drôle. Et ils ont tous enregistré sur les bandes et ainsi de suite. Et ça a fabriqué une espèce de grande vague assez belle. J'aime beaucoup. C'était vraiment une expérience, ce morceau.
Et du coup, ouais, c'est vraiment alors, le côté plusieurs voix. Là, c'est réel. Tu as été chercher des voix un peu partout.
Ouais, totalement, ouais.
Alors, j'ai une question aussi. C'est un projet donc narratif où là, t'incarnes un personnage assez fort et même plusieurs personnages puisqu'il est plusieurs dans sa tête. Comment on arrive à raccrocher justement d'autres personnes un peu à ce projet ? Parce que c'est un projet où tu mets beaucoup de toi et il y a beaucoup d'émotionnel, etc. Comment on travaille à plusieurs autour de cette matière-là ?
Ben, on travaille à plusieurs parce que je dirige, en fait, tout simplement, pour plein de raisons, hein, pour des raisons aussi pratiques, mais beaucoup d'esthétique. Je compose tout, toutes les croches, en gros, hein, toutes les notes. Et je fais venir des musiciens pour qu'ils les interprètent. Et notamment Axel et Thomas, ils sont incroyables pour ça, parce qu'ils sont assez humbles pour dire « Ok, il y a une partition, et on peut le jouer ». Et là où ils sont suffisamment balèzes, c'est qu'ils transforment des partitions qui sont juste des notes au final en quelque chose de très musical et j'aime beaucoup travailler avec eux pour ça. Et après ils me font des propositions aussi parce que moi je travaille sur ordinateur beaucoup et entre comment ça rend le rendu sonore sur ordinateur et la réalité, bah il y a quand même un fossé. Hein. Du coup on adapte ensemble, on arrange. Et là, sur le morceau de What's Your Feeling in the Night avec les autres musiciens, c'était très libre. Je leur demandais, ok, il y a une tonalité, et... allez-y, balancez des trucs, je veux des modes de jeu, des intentions. Il n'y avait pas forcément de partition ou quoi, et ça marche, ça se combine, ça fonctionne forcément. C'est des musiciens, ils ont des oreilles, ils s'adaptent.
Eh ben, on va écouter ça justement. Donc, That's What I Feel in the Night. Donc peut-être qu'on peut citer deux, trois musiciens qui sont dessus.
Je vais tous les citer même.
Allez.
Alors dessus, il y a au piano, il y a Gaspard Chefdeville, à l'harmonica, il y a Stéphane Friedlou, au koto, il y a Ask Andersen, à la clarinette, Owen Roberts, au violon, Nathalie Drancourt, au saxophone, Antoine Morin, à l'accordéon, Kevin Lacombe, et à la flûte, Jonastin.
Allez, on s'écoute ça. That's what I feel in the night.
lost in the town. With our truths, with our tribe. There's something in the light. That's what I feel in the night. That's what I feel in the night. Lost in the town. With our truths, with our tribe. There is something in the light.
What I feel in the night, c'est ce que je ressens la nuit, si on pouvait traduire ça maladroitement. Paradoxalement aussi, je trouve que c'est peut-être un des morceaux les plus lumineux, Alors c'est un morceau qui parle de la nuit, on pourrait s'attendre à ce que les fantômes surgissent la nuit, et finalement celui-là il y a presque, voilà, il y a un côté rêve assez c'est
ouais, totalement. Et même dans le texte à la fin du refrain, c'est justement There's something in the light. Il y a quelque chose dans la lumière. Et alors, je sais pas si c'est les musiciens qu'il y a dans la lumière, si c'est un fantôme, l'espoir ou la folie qui arrive. C'est pas vraiment ça, mais ça l'intrigue. Mais en quelque chose de beau. Enfin, je sais pas si c'est beau, mais c'est doux.
Alors, tu parlais un peu de la manière dont tu t'avais enregistré un peu. Toutes ces parties, tous ces musiciens un peu un par un dans leur salon, que tu as ramené un peu les sons avec toi dans ton sac en rentrant en Corrèze. Ça s'entend pas dans ce morceau que ça a été enregistré comme ça, c'est assez propre, en tout cas ça se mêle assez bien. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de la manière dont tu as travaillé le mixage? Ça doit être un sacré taf, ça.
Déjà, il y a le trio avec Thomas et Axel. On a enregistré en studio les bases. On a enregistré ça à Limoges, chez Toto, à Sonic Studio. Il travaille super bien, j'adore. Et il a beaucoup aimé ce qu'on fait. Donc, on est vraiment allé chercher des textures, tester des micros pour tel morceau, réaccorder tous les fûts à chaque morceau, à chaque partie. Et donc, c'était vraiment chouette. C'était un travail trop intéressant pour vraiment enregistrer au mieux. Et après, on a fait tout ça en mixage chez David Mascunan, à Riac-Rancon, lui, il est, au-dessus de Limoges. Et Studio Pro, c'était juste génial. Puis David, c'est quelqu'un qui a énormément de bouteilles, il a 60 et quelques années, j'espère que je dis pas de conneries. Et il a travaillé avec énormément de pros, et c'est très chouette. Il est prof aussi de son, donc c'était trop intéressant. Il nous apprenait à faire notre propre mix. Ça, c'était trop chouette. Et après, on a fait le mastering avec lui, mais quelques mois plus tard. Le temps de prendre le recul aussi sur le mixage et pour fabriquer tout ça.
Et pour trouver votre son.
Et pour trouver notre son, ouais. Mais c'était chouette parce qu'on a travaillé sur sa console analogique. Lui, il est old school. Mais du coup, c'est super chouette.
Il est old school. Comme à Radio Vassivière, nous, on est assez old school. On a aussi une console analogique. Voilà, ça c'est... Petite information pour nos auditeurs. Ce beau son vient de notre console analogique. Alors l'aventure, elle est loin d'être terminée avec cet album, parce qu'il vient de sortir, je crois, le 14 octobre, c'est ça?
Ouais, le 12, ouais.
Le 12, oh là là.
Non, mais il est sorti le 14 sur les plateformes.
D'accord, c'est ça. On va peut-être parler un peu de la vie de cet album dans les mois à venir. Quelque chose qui m'a aussi frappé en l'écoutant, c'est qu'on a... Alors tu me parles beaucoup là, justement, au contraire, que c'est assez recomposé, mixé, beaucoup travaillé en studio... à l'écoute, quand on sait pas ça, on a presque l'impression d'entendre des lives des fois. C'est-à-dire que les morceaux se déroulent, on a presque l'impression que c'est de l'impro, on a écouté des grands morceaux de rock progressif à l'ancienne, avec tout d'un coup les musiciens se mettent à jouer, il y a des montées, des descentes, il y a un son très, très propre et très travaillé, mais quand même, il y a quelque chose de très vivant, en fait, dans...
Bah, c'est ce qu'on a travaillé le plus, en fait, c'était de rendre justement une partition le plus vivant possible. Pour qu'on ait cette sensation, justement, de... C'est des musiciens qui jouent ensemble, on n'est pas des machines, quoi.
D'ailleurs, vous avez enregistré instrument par instrument, ou vous avez, comment vous...
Non, justement, on a pris on se l'est joué old school aussi, on a joué tout dans la même salle. Et c'était ça qui était intéressant aussi, c'est que le travail en amont est forcément plus long parce que y en a un qui fait une erreur, bah faut tout recommencer. Du coup, on pouvait pas faire d'erreur. Mais ça rend la musique, c'est vraiment différent, quoi. Toutes les sons se mêlent les uns aux autres, le son de basse rentre dans le son du tom, ça fait tout vibrer, ça résonne, quoi. Ça change tout.
Bah ça s'entend en tout cas.
Bah tant mieux.
Et alors, donc là, c'est l'aspect, ça ressemble à du live, mais c'est un album, mais du live, il va en avoir. Vous
ouais,
êtes aussi
totalement.
Un groupe de scène, vous avez l'air d'aimer ça. Quand on cherche un peu Emma Alcala sur Internet, on tombe sur pas mal de vidéos de concerts,
ouais.
Et ça a l'air d'être quelque chose. On
ouais,
sent que,
c'est très fun.
Que vous êtes dedans, quoi.
Ah bah, on y va à fond, hein. On veut défendre notre musique. Et là, on a joué justement le 12 octobre dernier à Userche, au Bruit qui court. C'est une nouvelle salle alternative, scène punk. Super, super chouette, super accueil. Le public était, était incroyablement présent et c'était vraiment, vraiment chouette. Là, on rejoue le 16 novembre à La Porcherie. Pareil, c'est dans une grange qui est devenue une salle de concert de Simon, je sais pas son nom de famille, mais qui a monté tout ce truc-là. Et pareil, scène alternative, super chouette. Et après, on joue le 29 novembre à Paris. Et voilà, bon, ça sera, c'est Paris, donc c'est différent. On verra, ça va être chouette aussi à Paris. C'est au Doc, c'est aussi un lieu alternatif. On aime bien les lieux alternatifs. Hein.
Oui, oui, je sens ça. C'est bien. Alors, écoute, moi, je vais pour finir un peu l'entretien, je vais te laisser choisir une chanson pour. Tu peux nous en dire deux mots, puis on l'écoutera pour terminer un peu l'entretien.
Ouais, on peut écouter With No Sign.
Tu peux nous en dire deux mots?
Ouais, c'est vers la fin de l'album, et c'est le moment où il se rend compte qu'il n'y a plus de marche arrière. Et c'est comme ça. En fait, il va juste devenir fou et passer...
Passe de l'autre côté du miroir.
Ouais, c'est un peu ça, en fait.
Eh bien, écoute, merci Emma.
Eh bien, de rien, merci Raphaël.
Et puis, longue vie à Emma Alcala.
Merci.
Et allez le voir en concert et achetez l'album. Ça vaut le coup.
This is my curse, and I'll be gone.